C'est ainsi que Donkey devient le dialogue qu'il invente avec le chêne. Peut-on qualifier la libération de malice électorale? Il faut la dire joie! Mais une joie électrifiée par les courants électoraux toujours contradictoires, en même temps que fulminants. Tu voudrais faire de la libération l'annonce de la charge électrique? À Limoges, il n'y en a jamais eu. Peut-être y a-t-il les regards tristes de Sacco et Vanzetti. Pour faire quoi? Pour dire quoi? Rien d'autre que ce qu'ils auraient lu dans les journaux ce jour-là. Et c'est quoi? Jeter dans l'un de ces sacs les 5 noms de résistance de Georges Guingouin sont déposés sur les quais de la gare de Limoges. Retrouvés, il leur est demandé de s'adjoindre un nom supplémentaire, maire de Limoges, pendant 5 ans. Les 5 noms de résistance ont renversé les fatalismes électoraux et leur liturgie. Pendant 5 ans, liberté, égalité, fraternité se sont trouvés inscrits sur la verticalité des arbres de la Berbérole. Ils peuvent se réinventer dans les forêts du monde entier. Mais à partir du mot « maquis » seulement. La couleur rouge qu'il y avait en Georges Guingouin devint la cible de tous les mots politiques et surtout ceux qui faisaient de ces mots un parti. Pourquoi? À quel point d'interrogation les 5 noms de la résistance allaient-ils accrocher leur destin? Les tronçonneuses à l'œuvre contre l'ancien fou des forêts inventèrent 5 tas de sciures qui, en langage de justice, devinrent 5 plaintes en meurtre. Complicité d'assassinat, incendie, vol, détournement, que l'évidence contraire transformera en non-lieu. Pourquoi tant de hargne? Bootstrap, quoique difficilement traductible en bleu, blanc, rouge, donne peut-être une explication. Bootstrap était le nom de guerre donné à Georges Guingouin par le stick des parachutistes. Il est né des discussions de ces parachutistes avec le grand sous les marronniers de la forêt de Marcy, autour d'un livre dont les mots traduits de l'anglais donnaient un nouveau destin à l'homme. Une symétrie fleurie germait entre les sciences, le savoir d'aujourd'hui et la sagesse orientale. Cette symétrie, appelée Bootstrap, permettait aux maquisards de la forêt de Marcy de parcourir des fragments entiers de la longue marche de Mao Tse. La forêt de Marcy se rêva Tao Te King. Antonio Gramsci vint apporter au rêve sa réalité. Et la prise de Limoges, sans massacre, comme à Tulle et au radour sur Glane, fut transformée en joie par Bootstrap. C'est avec les parachutistes, c'est-à-dire l'armée anglaise, que fut signée la reddition allemande. La terreur se replia sur le Rhin. Sans coup de feu, ce qui valut à Bootstrap, de la part des mots politiques, rendus furieux par leur inutilité, un nom de résistance supplémentaire, agent de l'impérialisme britannique. Le peintre Rébérol essaya de s'opposer. Mais avec des couleurs, le bleu, le blanc, le rouge se retrouveront sur un tableau. Associés à d'autres, ils inventeront un cyclope sortant d'un volcan. Ce sera tous les noms de résistance de Georges Guingouin en même temps. Le mot communiste, inventé par Morelli et magnifié par Babeuf, reste, mais privé de la barricade de la commune. Liberté, égalité, fraternité, il n'est plus qu'un isme qui a déjà transformé les noms de combat de Georges Guingouin en trotskisto, poumisto, vanderlubéono, titiste. Il survit à la manière d'un aimant qui ne se déplace plus près de la bobine en cuivre, alors que c'est en le faisant que Faraday a découvert l'électricité et changé la vie des hommes. immense plate granitique, le plateau mille sources, parfois travesti en vache, invente un paradis perdu et reconquis pour les sept noms toujours en guerre de Georges Guingouin. Raoul, l'orage, le grand, le chêne, Boustrap, en vous, il y avait la lampe à pétrole, le fléau à battre le blé, le cadran solaire, la pelle à vanner, les composts pour cueillette, des centaines d'objets rapatriés de plusieurs siècles de labeur limousin. Et c'est ainsi que la résistance, qui dans le dictionnaire n'est qu'un phénomène physique s'opposant à une action ou un mouvement, devient un moment de l'univers polyphonique contre tous les savoirs arrêtés de l'homme. Les cinq noms de résistance, chaque fois nous les prononçons, que nous les prononçons deviennent les chants infinis des forêts matisardes. Les couleurs de révérole sur chaque branche d'arbre battent des ailes. Dès que le soleil paraît, c'est le cyclope qui de forêt en forêt crie vers nous. L'illustrer, c'est reprendre le dialogue avec le chêne du mitard de la prison de Tulle. Donc, les mots politiques dans les forêts se transforment. Ils ne sont plus faits de guerre civile qu'ils se livrent entre eux dans l'immensité des luttes de l'homme. Mais ce sont les arbres du jardin Cheng de Liu Yunan qui répondent. Chute, notre jardinier, est parti parce que seule la vie dans les bois et la longue marche qui s'y fait chaque jour permettent de tracer les signes de la révolution selon la voie Tao. Lorsque nous saurons trouver un autre langage que celui des dictats pour lesquels les chaînes industrielles voudraient nous soumettre, ces mares de sang auxquelles ont été conformés les ouvriers protestataires de Shanghai ne devront plus être. Et c'est le chêne qui va conclure. Ce n'est pas un retour à l'homme des cavernes que les maquisards effectuent. Non, c'est à la verticalité. Le maquis est-il une écriture hors histoire? L'histoire, c'est elle que dans la forêt de Marcy, les parachutistes de Ringway se retrouvaient sous les mêmes arbres que les enfants de chauffeurs de taxi parisiens. C'est elle que les enfants de cheminots lyonnais se partageaient les hauteurs de Tarnac avec les enfants de balayeurs monégasques. S'y étaient ajoutés les étudiants alsaciens dont les corps sont peut-être encore présents dans les tourbières de Saint-Mère-les-Oussines. S'y étaient ajoutés au cours des saisons, comme dans un conte jardiné par Chouteux, catalans, basques, espagnols de la guerre perdue qu'il s'agissait de reconquérir, soviétiques déserteurs de l'armée de la Soft, allemands antifascistes, avec en eux la nuit des arbres des forêts berlinoises auxquelles Rosa Luxembourg avait parlé. Le ciel, au-dessus de chaque arbre, devant la verticalité auquel nous nous rencontrons, n'a pas changé. Les étoiles sont toujours les mêmes. Werner Heisenberg, Auguste Blanqui, Stéphane Mallarmé, André Breton, Walter Benjamin, Éric Musan. D'autres étoiles se sont posées sur les arbres de la Berbérolle pendant les tours de garde. Antonio Gramsci, Frédéric Nietzsche, Miguel Hernández, étoiles débattues dans la forêt de Marcy, Lao Tzu, Vladimir Klebnikov, Niels Bohr. Encore aujourd'hui, quoique devenue école, la prison de Tulle apporte avec toutes ses fenêtres une contribution à l'éternité par les astres. Ils sont toujours présents, Henri Michaux et Chuang Tzu. Le soir du retour de Don Quy sur le plateau Mille Sources, avec tous ses journaux annonçant la mort du premier maquisard de France, la lune se fit tourbillon dans le temps. et l'espace redevint tridimensionnel. Contre la relativité qui essayait de courber la Terre, elle s'inventa Nicole Gompers, Sophie Scholl, Ulrike Meinhof, Roré Diakos, toutes décapitées ou réduites en cendres. Mais lorsque commençait la défaite de la nuit, deux jardins stellaires, Yang Kaiwe, Liu Yulan, apportaient au soleil une féminité illimitée. Lorsque, face à son tableau, Reberold donnait vie au cyclope, Wolfgang Goethe venait y traiter de couleurs. Avec le tableau terminé, il continue à être présent aujourd'hui dans le musée des Moutiers. Savent-ils, les historiens, que le nom de résistance de la boulangerie de Tarnac était Faustocopie ? Non, parce qu'il avait gagné le Tour de France cycliste, mais parce qu'il était gramscien. C'est Raoul qui a inauguré le tour des étables imprimantes de la bergerie de Bontarias à celle de la Berbérolle. Entre les deux, la boulangerie de Tarnac y devient le lieu où la source d'éclairage la nuit est une lampe électrique, camouflée sur une planche où la Roneo peut tourner en plein régime. Les premiers tracts, chevauchés par la pelle de Londres, comme le buffle du Tao par Lao Tse, déploient comme lieu de naissance la forêt de la Berbérolle, le bois soudaine vinadière. Ils ont été rédigés chaque fois en présence et complicité d'une cinquantaine de moutons qui prenaient un plaisir tenace à déguster l'encre servant au tirage des tracts. Leur museau noir était le signe de la restitution, au bleu du combat, du blanc vendu et du rouge stalinisé. Ensemble, les trois couleurs redevenaient ce qu'elles étaient chaque jour dans le regard de chaque paysan du plateau aux mille sources. Pourquoi l'orage, après la bataille du Mont Gargan, proposait-il aux soviétiques déserteurs de l'armée de l'Azov, Rosa Luxembourg, lorsqu'elle écrivait à Lénine pour désapprouver sa politique envers les paysans? Pourquoi Le Grand, à son deuxième printemps, dans les forêts limousines, décrivait-il aux Espagnols de la bataille de Madrid, abandonnée par son gouvernement de gauche, les chemins de l'espérance? Les paysans sont immanquablement nos pères. C'est à ceux qu'ils sont devenus que nous devons nous adresser si nous voulons rattraper le buffle qui, en ce moment, erre dans l'immensité paysanne et pouvoir enfin gagner la guerre espagnole qu'ensemble nous avons perdue. Parlait-il du buffle de Lao Tse et de sa longue marche? C'était l'époque où Chu Te, devant ses paysans réunis, chantait avant de partir en opération. Ce n'est pas la transformation du monde extérieur qui peut changer quoi que ce soit, mais la transformation de l'attitude de l'homme devant la réalité qui peut tout. Corrèze, Creuse, Haute-Vienne, les arbres ne peuvent pas dire ce sont trois départements. Ils disent c'est la terre entière. Et les cinq noms de résistance donnent leur accord à la mairie de Limoges. Guingouin est pris entre les deux. Le tricolore est planté sur la terre vietnamienne. Destruction, dévastation, dans la forêt, des maquis se forment. À quelle couleur s'adresser? Au bleu, au blanc, au rouge? Ils sont tous en tenue camouflée. Quelle réalité en mer peut-il faire surgir pour arrêter l'assassinat d'hommes solidaires de leurs arbres? Redevenir Le Grand? Mais pour faire quoi? Aujourd'hui, Le Grand est réduit au mot « mer ». Et le maire cesserait de l'être s'il descendait dans la forêt de la Berbérolle dire aux arbres sa fraternité. Il redeviendra le fou dans les bois, comme l'en avaient accusé les mots du langage politique quand en Corrèze, Creuse, Haute-Vienne, les forêts devenaient maquis. Mais venus de l'autre côté de l'Atlantique, ceux qui ont déjà anéanti quelques millions d'Indiens et leurs forêts, interviennent. Leur aviation s'invente en langage avec l'extermination des forêts par les toxiques. Même détruites, les forêts deviennent shakespeariennes. Elles se mettent en marche. Les destructeurs s'en vont. En même temps que les mots d'adieu, les journaux diffusent que les forêts vietnamiennes aujourd'hui sourient avec toute la sagesse d'un feuillage qui va repousser. Optimisme ou infamie? Les deux. Les tueurs sont partis, mais pas les toxiques. Georges Guingouin doit-il redevenir l'orage comme sur le mont Gargan, né des bottes secouées de Gargantua, où la lande sèche, genêt et bruyère résiste aux assauts des bois? Mais comment intervenir sur les plateaux limousins, dans des dialogues supposés d'arbres et d'anciens maquisards? Ils ont toute la tristesse de la fausse joie qu'entretiennent le bleu, le blanc, le rouge, derrière désormais la fausse barricade de liberté, fraternité, égalité. Du temps de l'orage, la joie était l'odeur de la châtaigneraie, le murmure de la source porteuse de vie, la cabane retrouvée du feuillandier, la vieille forge à l'état d'exploit supposé au pied de l'étang. La Corrèze, la Vienne, la Vézère n'en étaient plus que le commentaire. La fête que laissaient supposer les parachutages d'armes et de matériel venus de Londres n'est apparue qu'avec Bootstrap. La joie peut-elle pleurer avec ou sans nom de résistance? Oui, avait déjà répondu sur le plateau aux mille sources, aux arbres des quatre rivières, donc qui. Et ce oui fut confirmé longtemps après par les mots du langage politique avec la réhabilitation de Georges Guingouin et de ses noms de résistance. Ce fut la joie! Mais une joie qui pleurait. Plus tard encore, remontant la Vienne avec Wang Zheliu, traducteur de Mao Tse, il confirme « Oui, la joie peut pleurer. » Mais une nuance